La chaleur s'abat sur la Nouvelle-Calédonie, c'est la saison, mais les températures sont bien supérieures au normal. Alerte à la dengue, des cas sont signalés depuis le début de l'année, surtout dans les zones non protégées par les moustiques porteurs de Wolbachia. En métropole, Sébastien Lecornu va-t-il trouver un compromis pour le projet de loi de finances? Si ce n'est pas le cas, il pourrait passer en force pour faire adopter un budget. Plus de décès que de naissances. Pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le solde naturel de la France est négatif. Et puis le sport avec du football et la qualification de l'OM pour les huitièmes de finale de la Coupe de France ce matin. Les Marseillais ont dominé Bayeux, club de régional, 9-0. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Et avant de développer tous ces titres, ce grave accident de la route ce matin à la sortie nord de la Tamois sur la RT1. Un utilitaire est entré en collision avec un tracteur en pleine opération de fauchage sur le bord de la route. Plusieurs personnes ont été blessées. Deux d'entre elles ont dû être désincarcérées du véhicule avant d'être héliportées vers le Medipôle. Le conducteur du tracteur est lui plus légèrement blessé. Il a pu sortir de son véhicule par ses propres moyens. Les pompiers et les gendarmes sont encore sur place. La circulation est complètement coupée dans les deux sens. Une déviation est mise en place par la route du littoral. La plupart des délégations se sont envolées pour Paris, où elles vont participer à la rencontre avec le président de la République vendredi, autour de la mise en œuvre de l'accord de Bougival. On sait depuis hier que ce sera sans le nouveau FLNKS, qui a donc annoncé qu'il boycottait ces discussions. On sait pour l'instant peu de choses sur la réunion, si ce n'est qu'elle est prévue à l'Élysée vendredi en fin d'après-midi, c'est-à-dire dans la nuit de vendredi à samedi pour nous, et qu'elle devrait être suivie par 3 jours de travail en atelier au ministère des Outre-mer.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Les discussions sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival doivent-elles se poursuivre malgré le refus de FLNKS d'y participer? Si vous pensez qu'elles doivent se poursuivre, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier, à l'unanimité. Les auditeurs de Radio Rythme Bleu pensent que le gouvernement de Sébastien Lecornu ne va pas être censuré par les députés. Dans l'actualité de ce jour, je vous le disais en titre, la météo, comme nous ici à RRB, vous devez souffrir vous aussi de la chaleur. Depuis 2 jours en effet, Lionel Sabot, les températures sont bien supérieures au normal de saison.
Il fait chaud, c'est bien le moins que l'on puisse dire, des températures, vous le disiez, supérieures au normal de saison, qui concernent essentiellement, soyons précis, la côte ouest de la Grande Terre, une hausse des températures et qui a une double explication. Julien Leduc est prévisionniste au Centre Météo France de Nouméa.
C'est principalement dû à la petite dépression qui stagne actuellement dans la région de Chesterfield, là, dans l'ouest de Koumac, assez loin, hein, et qui draine un air très chaud, tropical, qui descend du Vanuatu, hein, qui descend sur la Calédonie. Donc on a déjà une masse d'air très chaude qui est advectée sur le pays. Et parallèlement à ça, on a ce qu'on appelle, c'est un terme un petit peu technique, mais c'est l'effet de feune qui fait que l'air, toutes les humidités se bloquent sur la côte est et en contrepartie, l'air qui redescend sur la côte ouest de l'autre côté de la chaîne est plus sec et réchauffé. Et donc ça crée des conditions très chaudes sur la côte ouest. Depuis maintenant 2 jours.
Un minimum dépressionnaire et l'effet de feune qui font s'envoler les températures depuis 48 heures avec quelques valeurs très élevées, notamment hier dans le Grand Nouméa.
Hier, on a eu une température maximale dans la région de Païta qui était supérieure à 37 degrés. On est vraiment très au-dessus des normales de saison. On doit être localement entre 4 et 5 degrés au-dessus de la normale, ce qui est beaucoup pour ici. Ces conditions chaudes vont durer encore quelques jours, toujours sur la côte ouest, avec des températures très souvent au-dessus des 33, 34, voire localement 35 degrés.
Rappelons que les températures qui nous sont données par Météo France sont des températures sous-abri. Comprenez qu'en plein cagnard, vous avez beaucoup plus chaud. Un mot enfin du minimum dépressionnaire qui s'est formé très au nord de la Nouvelle-Calédonie. Les services de Météo France indiquent que ce dernier évolue très lentement, qu'il remonte un peu vers le nord. Ce minimum dépressionnaire qui pourrait, et j'ai bien dit, pourrait amorcer une descente vers le sud ce week-end ou en début de semaine prochaine. Mais l'incertitude est encore très grande.
Et puis la Nouvelle-Calédonie, sous la menace d'une épidémie de dengue, longtemps épargnée grâce à la méthode Wolbachia, le territoire voit la situation évoluer depuis 2 semaines. Des cas ont en effet été signalés depuis début janvier, surtout dans les zones non protégées par les moustiques porteurs de Wolbachia, Léana Colombo.
Et la saison des pluies et les nombreux déplacements pendant les vacances n'arrangent rien et favorisent même la propagation du virus. Si le Grand Nouméa a bénéficié de la méthode Wolbachia avec 8 moustiques sur 10 porteurs de cette bactérie, Ce n'est pas le cas du reste du territoire où rien n'arrête la transmission dans ces zones. Pour autant, la Nouvelle-Calédonie était toujours considérée comme une exception sanitaire face à la dengue, avec seulement 22 cas recensés en 2025 contre plus de 20 000 signalés à Fidji, Samoa et en Polynésie française. Les autorités sanitaires appellent à la plus grande vigilance. Trois gestes simples peuvent être effectués pour se protéger. Éliminer toute eau stagnante autour des maisons, se protéger contre les moustiques et consulter rapidement en cas de fièvre ou de douleur. Attention, pas d'aspirine ni d'anti-inflammatoire en cas de suspicion de dengue, uniquement du paracétamol. La DAS rappelle que la mobilisation de chacun est essentielle pour éviter une nouvelle épidémie.
Merci Léana. Il est 11h36, la première pause de ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chérie ?
Oui ?
Mais pourquoi t'as emballé notre fils avec du cellophane pour aller à la piscine ?
Bah, j'allais pas lui mettre une couche normale, va le sortir de l'eau après, moi je suis pas Hulk. Hein.
En plein été, t'avais qu'à descendre chez Cellocal au complexe Le 4. Ils ont des couches Huggy Swimmers.
Ah.
Bon, enlève lui ça là, on dirait un plat emporté.
Cet été, choisissez les couches Huggy Swimmers chez Cellocal. Complexe Le 4, faites vos courses autrement.
Les grandes vacances, ça se passe aussi à Nouméa.
Du 13 janvier au 6 février, découvrez à l'hippodrome Henri Millard des animations gratuites et encadrées pour tous les âges.
Une multitude de jeux, d'ateliers et des activités comme la baignade et les randonnées seront au programme.
On vous donne rendez-vous pour un été à Nouméa du mardi au vendredi de 9h à 16h en continu.
Des navettes gratuites partiront des quartiers de l'aérodrome Magenta, Rivière-Salée, Mont-Ravel et Tindu pour venir directement sur place. Renseignements et inscriptions au 27 07 02.
Retrouvez le programme détaillé sur www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa ma ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB 11h 13h Infomag Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie est la maison du téléphone à Motorpool victime de cambriolage. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Six jeunes, filmés par des caméras de surveillance, sont rentrés par effraction dans la boutique et sont repartis avec un butin estimé à plusieurs millions de francs, Léana.
Un cambriolage qui n'aura duré que quelques minutes et pourtant les voleurs ont réussi à dérober entre 80 et 100 téléphones des marques Samsung et iPhone. Deux semaines auparavant, le magasin avait déjà été cambriolé une première fois. Charles Gatimel, gérant de la maison du téléphone, déplore cette situation alors que sa seconde boutique venait d'ouvrir ses portes.
Le magasin avait ouvert depuis 5 mois à peu près et puis il y a deux semaines, par la même bande de jeunes, on avait subi un premier cambriolage qui n'avait pas fait beaucoup de dégâts et ils se sont un peu plus préparés. Ils sont repassés à 6 personnes, donc deux fois plus pour plus voler deux choses dans notre boutique. Ça faisait vraiment très mal au cœur, hein, tout le travail depuis des mois avec nos employés pour voir ce résultat. J'ai 23 ans, ça fait 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et comme toujours, bah, c'est des jeunes, hein, qui posent problème sur ce genre de choses et ça fait vraiment mal au cœur de travailler des mois, des années comme ça sur des projets pour au final que ce soit réduit à néant en quelques minutes dans une nuit et qui gâche le travail de jeunes entrepreneurs.
Dans un post sur les réseaux sociaux, le magasin met en garde contre les annonces de vente de téléphones sur Facebook ou encore annonces NC qui pourraient sembler étranges.
On appelle à des témoins, on appelle à la vigilance de tout le monde, de surveiller les annonces sur Facebook, sur annonces NC. Si vous voyez des annonces un peu spéciales, un peu bizarres, sur des téléphones neufs, sur des prix cassés, sur tout ce qui pourrait paraître étrange, ben nous, on est intéressés par toutes ces informations-là. Et tous ces téléphones-là sont numérotés avec un numéro IMEI. Donc ça permet à l'OPT de suivre dès qu'un téléphone est activé. Il peut avoir toutes les informations de la SIM qui a été insérée, toutes les informations de la personne qui utilise le téléphone. Donc à la fois pour les acheteurs, c'est vraiment important qu'ils se méfient des téléphones qu'ils achètent et l'OPT, avec l'aide de la police, pourra retrouver les utilisateurs des téléphones volés et du coup c'est tout le travail qui est en train d'être fait en ce moment même.
Les voleurs sont actuellement toujours recherchés. De son côté, la maison du téléphone a annoncé être prête à offrir une récompense si les informations partagées permettaient de retrouver le butin et ou les cambrioleurs.
Reconstruire efficacement les bâtiments publics. En fin d'année dernière, le gouvernement a organisé un séminaire de la maîtrise d'ouvrage. Il a réuni les acteurs publics et privés pour permettre de lancer rapidement les chantiers de reconstruction. Plus d'un an et demi après le début des violences insurrectionnelles de mai 2024, Pételo Sao reconnaît que les dossiers ont mis du temps à se débloquer. Le membre du du gouvernement en charge du secteur était notre invité ce matin à 7h30 et il a fait le point sur les principaux chantiers du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Ça n'a pas été une affaire facile, j'ai envie de dire. Il a fallu batailler avec les assurances sur les 10 milliards de francs que représentent ces chantiers de reconstruction. 6 milliards seront financés par l'État, 2 milliards par la Nouvelle-Calédonie et 2 milliards par les assurances. Il y a peu de participation des assurances. C'est aussi du fait du modèle des propriétés, des collectivités qui ne sont pas forcément assurées. On n'a que 2 établissements publics qui ont pu faire jouer l'assurance, comme on dit, et encore. Alors, le plus emblématique pour nous, c'est près d'un tiers du montant de l'enveloppe allouée, c'est le CFA sur le site de Nouville, à l'emplacement identique, un chantier qui est emblématique en termes de montant du chantier, mais aussi en termes de vision d'avenir pour nos jeunes calédoniens. On a aussi l'IFPSS aussi, qui sera reconstruit à l'identique, sur le même site. Donc, on voit bien que sur la dynamisation du quartier de Nouville, de façon à repartir, de montrer qu'on est présent et qu'on a une volonté aussi d'apporter une réponse sur le quartier de Nouville.
La reconstruction de ces bâtiments est une course contre la montre pour restaurer l'économie calédonienne. Aller vite, oui, mais pas n'importe comment, nous a dit Pételo Sao.
Sur nos provisions, ça va prendre 2 ans. C'est l'objectif affiché. C'est sûr que l'année dernière, on a déjà commencé à lancer des procédures de déconstruction de façon à gagner du temps sur le temps, en fait. Si on avait attendu que tous les arrêtés soient signés et que les conclusions avec les services de l'État aient abouti, on serait en train de lancer les phases de déconstruction aujourd'hui, alors qu'on les a un peu anticipées l'année dernière. L'idée, c'est d'essayer de faire correspondre le temps administratif avec le temps économique, de façon à pouvoir répondre aux urgences concernant dans la filière du bâtiment. On a bien compris qu'il y a encore un délai administratif qui est trop long par rapport au monde économique. Nous, on fait notre maximum pour réduire ce temps, mais on ne fait pas les choses n'importe comment. On sécurise les procédures, on sécurise aussi les marchés publics et on sécurise les bénéficiaires de ces marchés publics de façon à ce qu'il n'y ait pas de choses qui soient mal faites, quoi.
La reconstruction des bâtiments publics va aussi permettre de moderniser les équipements de la Nouvelle-Calédonie. Rappelons que l'État prend à sa charge 100% de la reconstruction des bâtiments scolaires et jusqu'à 80% de la reconstruction des autres bâtiments publics. Le maire de Dumbéa en visite dans les structures pour personnes âgées de sa commune. Johan Le Courrieux est allé visiter plusieurs résidences dans les différents secteurs de Dumbéa. C'était le cas ce matin à la maison de retraite Gabriella du quartier d'Auteuil.
Il est important chaque début d'année de visiter l'ensemble des structures qui prennent en charge nos personnes âgées. C'est vraiment important de voir comment fonctionnent les structures, comment sont bien accueillies les personnes âgées de Dumbéa, voire même de l'agglomération. L'ensemble des conditions d'accueil de ces personnes âgées sur la commune, sur l'ensemble des structures, qu'elles soient des EHPAD de grande capacité, voire des maisons d'accueil que nous visitons aussi. Et donc on s'aperçoit que les personnes âgées sont bien accueillies sur la commune de Dumbéa et que l'ensemble quasiment des structures sont quasiment complètes. Il reste encore quelques places. C'est très important aussi de rencontrer les équipes. Ce qui ressort le plus, c'est surtout le besoin de personnel formé, c'est-à-dire des infirmiers, des aides-soignants, des référents médecins, des référents pharmaciens pour l'ensemble des structures. Et ressort aussi difficultés financières sur les paiements, sur les prises en charge des personnes et donc qui peuvent mettre en difficulté des structures et qui seront importantes pour l'accueil des personnes âgées sur la commune.
Et les résidents de la maison retraite Gabriella étaient heureux d'échanger avec le maire à l'image d'André, de Janine, d'Alice ou encore de Colette.
Ça fait 8 ans que je vis ici. On est très bien, on est 16 personnes. Je suis très contente de rester dans la maison de Gabriella. Et la directrice, elle est très, très, très gentille. Je ne quitterai pas 3 sous cette maison de retraite Gabriella.
Ça fait plaisir à vos yeux d'avoir le maire qui vient vous voir.
Oui, bien sûr. C'est important. Eh bien, très plaisir, parce que c'est pas la première fois qu'il vient nous voir. Il vient nous voir l'année dernière, c'était pareil.
Vous portez le t-shirt RRB. C'est un plaisir d'avoir monsieur le maire qui vient vous voir aujourd'hui.
Merci. Merci, Chigatote.
Voilà donc pour ces propos recueillis par Michael Juneski, le maire de Dumbéa s'est rendu évidemment dans les autres maisons de retraite de la commune. Et puis durant cette période de vacances scolaires, parlons des centres de loisirs qui sont nombreux à être en activité. En province sud, 22 centres de vacances et de loisirs sont programmés, notamment ceux de la CAF dans Nouméa et le Grand Nouméa. L'un des centres de loisirs est basé à Païta, dans l'école primaire Les Chefs-Léras, au Montmou. Sur le thème « La santé, le bien-être et la solidarité », Charlotte Boinemois est la directrice des centres de loisirs pour la CAF.
Plusieurs activités sont prévues. Nous avons chaque semaine deux sorties. Donc une sortie piscine, donc la piscine de Coutio, et la sortie plage de Nouré avec ce que la mairie de Dimbert met en place, des super activités. Concernant Païta, nous voulons aussi intégrer la caravane de loisirs qui a commencé hier et qui se fait que en matinée. Mais sinon, à part ça, avec nos enfants, nous avons mis en place diverses sorties, comme aussi la tyrolienne qui est prévue la semaine prochaine. Donc les enfants qui ne sont pas encore inscrits au centre, venez vous inscrire. On a plein d'activités à partager avec les enfants et surtout les sorties.
Et si vous êtes intéressé, vous pouvez encore inscrire votre enfant sur le site de la Province Sud. Ils sont donc nombreux à participer à ces activités proposées par l'Association calédonienne pour l'animation et la formation à Païta et Dumbéa.
Ma première semaine de vacances, j'ai aimé la piscine.
On s'est bien amusé. Ce centre, il n'est pas comme les autres, parce que comme on n'est pas beaucoup, on est comme une famille, on est très solidaires.
C'était cool.
La piscine, c'était très bien. On s'était pile le temps qu'il fallait. Ensuite, on s'est bien amusé. Puis la plage de Nouré, il y avait plein d'activités, c'était super.
On est parti à la mer, on est parti à la piscine et j'ai bien aimé la mer et la piscine. Et j'ai préféré, entre les deux, j'ai préféré la piscine. On a joué avec des balles, on a joué avec plein de trucs. Je me suis bien amusée avec mon animatrice.
On s'est bien rafraîchi. On a sorti à la piscine et à Nouré, on s'est bien amusé, on a bien joué. Ouais, c'était bien.
Voilà, il reste encore des places dans ces centres de loisirs et de vacances. Vous pouvez vous rendre pour cela sur le site de la Province Sud ou alors téléphoner à la CAF au 25 15 05, le 25 15 05. 11h47, dans un instant, nous ouvrons une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Voyagez en tout confort et sécurité avec le Maridé 7 et son équipage souriant pour passer une journée inoubliable au Phare Amédée. Téléphone 26 31 31, réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
La ville de Nouméa recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Si vous souhaitez travailler au centre de traitement de l'alerte situé à Normandie, vous avez jusqu'au 16 janvier pour postuler.
Et si vous préférez exercer dans un des deux centres de secours, vous pouvez candidater jusqu'au 6 février. Toutes les infos, conditions, phases de recrutement et dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la ville www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 24 38 18.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Bodin.
Et Sébastien Lecornu veut toujours croire qu'un compromis politique est possible pour doter la France d'un budget pour l'année 2026, alors qu'il avait échoué en fin d'année dernière. Les débats sur le sujet ont repris à l'Assemblée nationale. La seule solution, c'est de trouver un accord entre la droite, les groupes de la majorité présidentielle et une partie de la gauche. Mais s'ils n'arrivent pas à trouver de compromis, il faudra alors un passage en force, option qui semble de plus en plus inévitable. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Officiellement, l'exécutif veut croire au compromis, mais dans les faits, il s'éloigne et la patience s'épuise, surtout à l'Élysée. Emmanuel Macron veut aller vite, il pousserait pour qu'une issue soit trouvée dès cette semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine. Pour lui, la France ne peut plus rester sans cap budgétaire clair. Il faut envoyer rapidement un signal au marché et aux partenaires étrangers. Problème à l'Assemblée, tout est bloqué, la droite hésite, la gauche se divise et le camp présidentiel ne rassemble pas. Résultat, le scénario d'un passage en force prend de l'ampleur. Deux options sur la table. Le 49-3, le gouvernement engage sa survie avec le risque qu'une censure fasse tout tomber. Ou les ordonnances, une adoption directe, plus rapide, plus sûre et un budget garanti dès le lendemain. À l'Élysée, cette seconde option serait privilégiée. Le calcul est simple, mieux vaut un budget qu'un blocage, quitte à fragiliser le gouvernement. Pour l'heure, Matignon temporise, mais plus le temps passe, plus le passage en force devient une nécessité.
Une centaine d'agriculteurs et le tracteur passent la nuit près de l'Assemblée nationale. Ils ont manifesté toute la journée d'hier. Ils ont déversé 30 tonnes de pommes de terre sur le pont de la Concorde et ils refusent pour l'instant de quitter Paris. Une délégation de représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs a été reçue pendant plus de 2 heures par Sébastien Lecornu qui promet un texte en bonne et due forme pour mettre fin à la crise. Jacques Serret pour Europe 1.
Sébastien Lecornu annonce une loi d'urgence agricole pour tenter d'apaiser la colère, un texte réclamé de longue date par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, centré sur trois priorités, l'eau, la prédation et les moyens de production. Le Premier ministre promet un cap clair sur la politique de l'eau d'ici le Salon de l'agriculture et l'ouverture de discussions sur des dérogations à la directive européenne sur les nitrates. Mais cette réponse ne couvre qu'une partie des revendications. Les agriculteurs dénonce la hausse des coûts de production, la concurrence internationale et l'impact de nouvelles normes communautaires. Dernier exemple, la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, entrée en vigueur au 1er janvier, que la France et l'Italie contestent déjà pour les engrais. Et surtout, l'urgence reste relative. Le projet de loi n'arrivera qu'en mars sur la table du Conseil des ministres. Son examen par le Parlement est prévu avant l'été et une partie des 300 millions d'euros annoncés dépend encore du vote du budget à l'Assemblée.
Des annonces qui n'ont visiblement pas satisfait les agriculteurs manifestants.
Y a rien.
C'est du vent, c'est du vent. On reste là, on reste là.
Il n'y a rien de concret pour le moment, donc on est déterminés, on va rester ici jusqu'à ce qu'on sache un peu où on va et ce qu'on veut faire de notre agriculture. Pour l'instant, il n'y a rien de satisfaisant.
On attendait mieux d'un Premier ministre quand même. Faire des annonces sur Twitter, c'est quand même quelque chose de bas étage. On commence à en avoir ras-le-bol, quoi.
Les agriculteurs devraient mener de nouvelles actions de terrain dans plusieurs régions de métropole la nuit prochaine pour nous. Dans l'actualité judiciaire, premier jour du procès de Marine Le Pen et de ses 11 co-accusés. C'est le fameux procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Marine Le Pen joue gros, condamnée en première instance à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Elle pourrait être privée de présidentielle en 2027 si la peine était confirmée en appel. Une jeune fille de 15 ans violée dans un square à Paris. Les faits ont eu lieu ce week-end et l'auteur présumé de ce viol a été arrêté. Il s'agit d'un ressortissant algérien qui était sous le coup d'une OQTF. Ils sont des dizaines de millions dans ce cas à être clandestins en France et dans plusieurs pays occidentaux. Et c'est dans ce contexte que le président algérien annonce avoir signé un décret pour les inciter à revenir en Algérie. Un geste surprenant qui pourrait apaiser les tensions entre Paris et Alger, explique Alexis de la Fontaine.
C'est un signal fort et plutôt inattendu. Concrètement, Alger veut aider ses ressortissants les plus précaires à revenir dans leur pays plutôt que les laisser à l'abandon dans les rues françaises. En revanche, les auteurs de crimes de sang, de trafic de drogue, de trafic d'armes, ainsi que les personnes ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers sont exclus de ce rapatriement et donc resteront en France. Selon les médias locaux algériens, une des motivations du président Tebboune, c'est de rétablir l'image de l'Algérie, car selon eux, les mauvais comportements de ces clandestins, je cite, salissaient l'image du pays. Pour Paris, cette annonce est une petite victoire, car depuis des mois, le dialogue est bloqué sur la question migratoire. Mais depuis la démission de Bruno Retailleau du ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron multiplie les gestes d'apaisement et accélère la repentance française sur la colonisation en Algérie.
On s'y attendait, mais c'est désormais officiel et effectif. La France vit un effondrement démographique. Pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le solde naturel s'est inversé en 2025, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de décès que de naissances. 651 000 morts pour 645 000 naissances. Une baisse de la natalité de 24% par rapport à 2024 qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs, analyse Sylvie Dominez, chef de l'unité des études démographiques à l'INSEE.
Il peut y avoir beaucoup d'incertitudes quant à l'environnement, aux conditions de vie, une guerre aux portes de l'Europe. Il peut y avoir aussi des raisons plus économiques. On a quand même traversé une période de forte inflation, des difficultés de logement, etc.
Oui, si le solde naturel est négatif, le solde migratoire, lui, est toujours positif. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'étrangers et de Français qui sont venus ou revenus s'installer en France que de personnes qui en sont parties. L'actualité à l'étranger, la situation est loin de se calmer en Iran, 17e jour consécutif de manifestations contre le pouvoir des Mollahs et nouvelle nuit de répression violente et sanglante. Depuis le début de cette contestation populaire, 734 personnes ont été tuées. Continuez à manifester, prenez le contrôle de vos institutions, a lancé le président américain aux manifestants, en ajoutant « l'aide est en chemin ». Donald Trump a déjà annoncé de possibles actions économiques, voire militaires, contre le pouvoir iranien. Et dans ce contexte, la France espère bien retrouver Cécile Collère et Jacques Paris, ces deux ressortissants français incarcérés pour espionnage, qui pourraient être échangés contre une influenceuse iranienne de 39 ans actuellement en France et qui est jugée depuis la nuit dernière pour nous pour apologie du terrorisme. Antoine Bienveau.
Sur les bancs d'une salle d'audience pleine à craquer, c'est vers son visage que se tournent tous les yeux. Coiffé d'un voile mauve, le regard fuyant et la mâchoire serrée, Mahdieh Esfandiari sait que son sort intéresse bien au-delà des murs du tribunal. Car c'est elle, cette traductrice iranienne installée en France depuis 7 ans, que le grand jeu de la diplomatie pourrait bientôt envoyer vers l'Iran en échange de Cécile Kohler et Jacques Paris. Mais avant cela, c'est à la justice française que doit répondre Mahdieh Esfandiari, qui durant toute l'audience ne cachera jamais sa sympathie pour le guide suprême Ali Khamenei. Pendant plusieurs heures, la présidente la questionne, photo à l'appui, sur ses messages glorifiant les attentats du 7 octobre postés avec ses co-prévenus sur les réseaux sociaux. Dans sa voix, aucun regret ne transparaît, cet attentat était un acte de résistance, soutient-elle devant une présidente plus qu'agacée. Dans un français parfait, Mahdieh Esfandiari va même jusqu'à confesser s'être réjouie des massacres du 7 octobre. Après plus de 3 heures d'audition, l'Iranienne se rassoit, avec forcément dans un coin de sa tête son possible départ prochain vers Téhéran. Le procès, lui, va continuer jusqu'à vendredi au tribunal de Paris.
Il est 11h55, une dernière pause dans ce journal avant de voir l'actualité sportive. Et on commencera par l'OM, dernier qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
À compter du mardi 20 janvier, la circulation automobile se fera à double sens autour de la place des Cocotiers. Les rues Anatole-France et Jean Jaurès pourront désormais être empruntées dans les deux sens.
Pour cela, des travaux de signalisation seront réalisés dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 janvier. En fonction de l'avancée du chantier, des ajustements pourraient s'étaler jusqu'au mercredi 21 janvier.
Les informations pratiques et le nouveau plan de circulation sont disponibles sur le site www.nouméa.nc et la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour votre sécurité, faites preuve de vigilance et respectez la signalisation mise en place.
Ceci était un message de la ville de Nouméa.
Alerte chaleur maximale chez Subaru. L'été fou de Subaru revient. Les prix fondent et les sensations montent. Le Crosstrek, le Forester et l'Outback vous attendent. Robuste, fiable et taillé pour l'aventure avec des offres de folie. Direction Subaru au village automobile à Nouméa au PK4 ou chez NC Motors Kone pour en profiter dès maintenant.
Offre valable jusqu'au 31 janvier 2026 dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, tout le sport avec Léo Fichou ce midi. On commence par du football et la victoire écrasante de l'Olympique de Marseille sur le Bayeux FC. C'était en 16e de finale de la Coupe de France.
Oui, sur le papier, la rencontre était on ne peut plus déséquilibrée entre l'une des meilleures équipes de Ligue 1, l'OM, et le petit poussé de la compétition, le Bayeux FC, pensionnaire de Régional 1, le 6e niveau français. Sur le terrain, la logique a été respectée. Les Marseillais se sont largement imposés, donc victoire 9-0, avec notamment un triplé de Messi Greenwood, un OM très sérieux du début à la fin. On écoute Benjamin Pavard.
Oui, il ne fallait pas prendre cette équipe à la légère. On a vu, ils ont battu Caen, ils ont gagné contre pas mal d'équipes. On savait qu'on était attendu ici. On a été sérieux, on a respecté cette équipe et chapeau à cette équipe parce que ils ont essayé de jouer, ils sont venus aussi nous presser, ils ont eu aussi quelques opportunités et franchement chapeau pour leur parcours et je souhaite le meilleur pour arriver le plus haut possible ou la monter dans leur championnat.
Et de leur côté, les joueurs de Bayeux, notamment Antonin Casserine, l'un des défenseurs normands, ils vont garder en tête une épopée magique, une rencontre de rêve.
Ça va 100 fois plus vite que nous. C'est déjà, c'est un honneur de pouvoir jouer une rencontre comme celle-là. Ça va être des souvenirs éternels. Après, forcément, la rencontre, on est frustré parce que 9 buts, ça fait jamais plaisir. On est compétiteur comme tout le monde, mais ça va rester un souvenir éternel.
Et pour la suite de la compétition, 8e de finale, l'OM accueillera le Stade Rennais. On aura le droit à un autre duel 100% Ligue 1 entre Strasbourg et Monaco, mais aussi entre Lorient et le Paris FC. Duel 100% Ligue 2, cette fois entre le Stade de Reims et Le Mans. Dans les autres rencontres, Toulouse recevra Amiens, Nice affrontera Montpellier, l'OL sera opposé au Stade Lavallois et enfin le leader de la Ligue 1, Lens, ira affronter Troyes.
Allez, le point sur le Dakar et la 9e étape qui s'est disputée cette nuit sur les pistes d'Arabie Saoudite. En moto, c'est l'Espagnol Tocha Chareina qui s'est imposé. L'Australien Daniel Sanders récupère la première place du général, tandis que le Français Adrien Van Beverem est 7e. En auto, victoire du Polonais Eric Goxal. Au classement général, c'est Nani Roma qui prend la tête et Sébastien Loeb est lui toujours 6e. Au classement général. On va terminer avec du tennis dans la région après le Challenger de Nouméa. Cette semaine, ce sont les qualifications de l'Open d'Australie avec 8 Français encore en lice.
Et parmi eux, le chouchou du public nouméen, vainqueur du BNC Tennis Open, Arthur Géa. Il a remporté son premier tour contre le Tchèque Kolar et sera opposé en demi-finale des qualifs à l'Argentin Boruchaga. On retrouvera également Pierre Gerber, Titouan Droguet, Hugo Grenier ou encore Lucas Van Hache. Également des visages familiers, Yorij Rodionov qui était en finale du BNC Tennis Open, Liam Draxel ou encore Bernard Tomic, l'Australien. Chez les dames, elles sont trois Françaises à s'être qualifiées pour le deuxième tour de ces qualifications, les demi-finales donc, Fiona Ferro, Chloé Paquet et enfin la dernière tricolore, donc Harmonitane.
Merci Léo, il sera midi dans quelques secondes, c'est la fin de ce journal, je vous souhaite une belle après-midi sur Radio Rythme Bleu.